toutes et à tous. Bienvenue sur l'émission locale, une émission produite par l'émission locale et Principe Actif, qui parle d'insertion économique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme Filippini, le préfet de l'Eure, le commandant Bininger du S10 de l'Eure et Wilfried Le Goupil, sapeur-pompier professionnel et ancien jeune sapeur-pompier. Et avec nous aujourd'hui, Rémi, Johan, Aurélia, et accompagné de Jean-Jean et JC.
Sans oublier qu'il y a toi, Alexandre.
Et à la réalisation, Vinci.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Dans le sud de l'Eure, 95.9. À Évreux, 102.4. Et partout ailleurs, sur principeactif.net.
Alors bonjour à tous, nous allons donc commencer cette émission de radio par quelques questions. Déjà, comment allez-vous?
Ça va, très bien.
Bonjour, très bien, merci.
Bonjour à tous, merci, très bien.
Génial. Alors ma première question était pour monsieur le préfet, qu'est-ce qu'un préfet?
Ah ça c'est une question difficile.
J'entends
Deuxième
bien.
Question.
Non, on passe pas les questions.
Bon, le préfet c'est le représentant de l'État dans un département. C'est le représentant de chacun des ministres. Il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Finances, etc. Il faut, dans chaque département, un représentant à la porte duquel on peut venir taper pour livrer un certain nombre de problèmes, voire régler des difficultés. Le préfet, il est responsable de la sécurité, il est responsable de la protection des citoyens, et puis il est responsable du dialogue avec les élus, les maires, les conseillers départementaux, pour faire tout ce qui est bon pour un territoire. Voilà à quoi ça sert, en gros, un préfet.
D'accord, merci. Alors, ma deuxième question était, comment en êtes-vous arrivé là et quel était votre parcours?
Alors, moi, j'ai pas, comme beaucoup, en fait, hein, j'ai pas décidé à l'avance le parcours. Je me suis un peu laissé porter par les études. J'aimais bien l'école. Et puis, j'ai eu la chance, par l'école de la République, d'avoir des professeurs qui m'ont poussé, qui m'ont stimulé, qui m'ont donné envie de progresser. Et puis, j'ai découvert progressivement qu'il y avait des métiers d'intérêt général, c'est-à-dire des métiers où on vient pas spécifiquement pour gagner de l'argent ou pour développer une entreprise, qui peut être très sain aussi et très bien, mais pour venir aider les autres, en gros. Donc ça s'appelle les métiers du service public. Et donc j'ai fait des écoles qui m'ont permis de faire ce métier-là. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Ah, justement, vous évoquiez cette notion de métier qui aide aux autres. Il y a un métier qui est clairement évident pour toute la population pour venir en aide aux autres. C'est vraiment le métier de pompier. Je me permets de me retourner vers Wilfried Le Goupil et puis le commandant Bininger du S10 de l'Eure et Wilfried, sapeur-pompier professionnel. Lors de la présentation, Aurélia, c'était Alexandre qui disait, vous avez été jeune sapeur-pompier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours et puis de ce choix? Pourquoi, au bout d'un moment, rentrer comme professionnel chez les pompiers?
Monsieur le préfet, je dirais qu'un jour, j'ai poussé la porte d'une caserne. J'avais 13 ans. Je suis devenu sapeur-pompier. On nous apprend des valeurs, le travail de sapeur-pompier, voir si ça correspond à nos attentes. Et plus le temps passe et plus on s'y sent bien. Il y a aussi une certaine éthique, le travail en équipe, la cohésion. Et plus le temps passe, ça devient des amis. Quand vous avez le fond altruiste, vous avez envie de vous impliquer, tout pareil. Et puis les choses se passant, l'âge autorisant de devenir sapeur-pompier volontaire. Alors à l'époque c'était 16 ans, mais maintenant c'est 18 ans, c'est la majorité. Et puis diverses expériences ont fait qu'on peut en faire son métier si on le souhaite.
Commandant Bininger, j'espère que je prononce bien d'ailleurs, parce qu'on avait une question sur la prononciation de votre nom juste avant le début de l'émission, et je me suis dit autant le régler maintenant pour éviter d'écorcher votre nom tout au long.
Je considère jamais qu'on écorche mon nom, puisqu'on peut le dire totalement de façon en fonction de sa région d'origine. Habituellement on le prononce plus Bininger, mais Bininger, je suis pas embêté par d'autres prononciations, il n'y a pas de problème.
Donc vous êtes commandant du S10 de l'Eure. En quelques mots, qu'est-ce que le S10 déjà ?
Eh ben, le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure est un service de sécurité civile au sens large qui est là pour porter secours à la population, avoir des missions aussi de prévention qui participent à la protection des populations, comme l'a évoqué monsieur le préfet tout à l'heure, au même titre que d'autres services, avec des missions propres, comme la lutte contre l'incendie, et des missions partagées avec les autres, comme le secours aux personnes, par exemple.
Ce que j'entends dans vos interventions à tous les trois, c'était cette notion de service au public et cette notion de valeur. C'est ce que j'entends vraiment qui passe au-delà de tout ce qu'on se dit là. C'est essentiel, au bout d'un moment, ce sont des métiers de vocation, tous ces métiers, aussi bien pompiers que préfets, ou plus largement, et on y viendra dans un instant, sur les métiers de la fonction, enfin pas de la fonction publique aussi, mais de tous les métiers, notamment qui dépendent des ministères.
Oui, je crois qu'on peut chacun répondre à notre façon. Et puis il y a en France 5 millions de fonctionnaires territoriaux, hospitaliers, fonctionnaires de l'État. Il y a une diversité de métiers fantastique. Mais je crois que ce qui les réunit tous, c'est l'idée que on peut être utile aux autres chaque jour avec son travail. Alors il y en a beaucoup d'autres qui le font aussi, hein, bien sûr. Mais le fond de la vocation, ce qui fait qu'on y est entré et puis qu'on a envie d'y rester, c'est qu'effectivement, on peut... servir les autres avec neutralité, avec impartialité, en étant soucieux d'améliorer la situation concrète des personnes. Voilà, c'est ce qui m'a motivé depuis le début de ma vie professionnelle. Je pense que c'est évidemment encore plus le cas pour les sapeurs-pompiers.
D'accord. Oula. D'accord, donc merci pour cette réponse. J'avais donc dans la continuité de votre réponse une question. Vous avez mis en place un plan 10 000 jeunes, il me semble. Donc, en quoi consiste ce plan ?
Alors, ce plan, ça a été décidé par le gouvernement pour partir d'un constat. Le constat, c'est que les fonctions publiques, les services publics offrent énormément d'opportunités pour s'engager professionnellement. On peut devenir pompier, on peut devenir infirmier ou infirmière, on peut devenir médecin hospitalier, ça ce sont aussi des métiers de la fonction publique. On peut devenir policier, gendarme, on peut venir travailler en préfecture, on peut aller dans beaucoup d'autres endroits encore. Et le constat c'est que parfois certains jeunes se censurent, c'est-à-dire qu'ils se disent ces métiers-là, peut-être je les aimerais bien, mais je ne les connais pas et ce n'est pas pour moi. Donc le plan 10 000 jeunes consiste à faire tous les efforts possibles cette année pour aller présenter les services publics, en particulier les services publics de l'État, aux jeunes, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qu'ils habitent dans la ruralité, qu'ils habitent dans les quartiers, qu'ils habitent parfois dans des familles qui n'ont jamais eu aucun fonctionnaire dans leur famille, hein, et de leur faire découvrir ces métiers-là. Voilà, c'est ça le plan 10 000 jeunes. Alors 10 000, on espère bien d'ailleurs que ce sera beaucoup plus que 10 000 jeunes qui seront intéressés, et concrètement, mais je pourrais y revenir, on essaie dans l'heure de prendre notre part aussi à ce plan.
Alors, très bien. Alors, moi, j'ai une question un peu plus précise. Le plan 10 000 jeunes que vous avez présenté, il ressemble un peu au plan un jeune, une solution. Quelles sont les différences entre ces deux plans ?
Oui, c'est une bonne question. Ça en fait partie, mais ça ne se recouvre pas complètement. Le plan un jeune, une solution, ça consiste à dire qu'il y a de fatalité pour aucun jeune et qu'il faut... en face du destin qui est en train de se dessiner à 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand on cherche son orientation et demain un débouché vers un premier métier, il faut qu'il y ait des personnes qui nous répondent oui positivement. Ce plan Un jeune, une solution, par exemple, dans l'heure, ben, il est mis en œuvre avec les missions locales. On est accueilli ici par la mission locale d'Évreux qui, avec le dispositif de la garantie jeune, permet à des jeunes nombreux, hein, c'était 1000 l'an dernier, ça va être 2000 dans l'heure, d'être accompagnés durablement dans leur recherche, parfois un peu compliqué pour passer d'un gros point d'interrogation à un point d'exclamation, ça y est, je l'ai trouvé. Donc ça, le plan Un jeune, une solution, mais il passe aussi par d'autres solutions comme la facilitation de l'apprentissage. Demain, pour trouver un métier, la meilleure façon de le faire, c'est de le tester en entreprise. Ça s'appelle l'apprentissage. Et donc on essaie d'augmenter, ça a très bien marché dans l'heure l'an dernier, le passage par l'apprentissage. Voilà, ça c'est le plan général du gouvernement. Et dans ce plan, il y a un truc un peu particulier qui s'appelle le plan 10 000 jeunes, qui consiste à présenter les métiers du service public et les opportunités du service public. Parce qu'un jeune, une solution, ben vous pouvez aller travailler demain dans une pâtisserie, vous pouvez aller travailler dans l'industrie, vous pouvez aller travailler dans l'agriculture, voyez. Et puis, il y a aussi la possibilité de venir travailler dans les services publics et c'est ça qu'on veut faire valoir.
Excusez-moi, du coup, monsieur le préfet, j'avais une autre question pour vous. Estimez-vous que l'année passée est plus compliquée que les années précédentes avec les restrictions sanitaires?
Alors oui, on vient de vivre une année vraiment compliquée de tout point de vue, bien sûr, hein, et qui pourrait dire le contraire ? Et de tout point de vue, c'est-à-dire d'abord, bien sûr, pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Hein. On a été obligé de prendre des mesures de contrainte, des mesures de restriction, de limitation des déplacements. Parfois, pour certains commerces ou certaines activités, de les fermer pendant longtemps. Et on sait très bien que, à quel point c'est pénible, à quel point on a envie, nous, de retrouver les cafés, les restaurants et un jour de retourner dans des salles de concert ou d'aller dans des festivals. Voilà, donc c'est tout ça qu'on vit depuis plus d'un an maintenant. Et oui, bien sûr, c'est difficile à vivre pour tout le monde. Justement, c'est peut-être l'occasion de le dire, pour ceux qui travaillent dans le service public, c'est aussi une contrainte supplémentaire. Et puis, c'est une fierté. Voilà. Je prends l'exemple des pompiers, mais ils le diront mieux que moi. Ils sauvent des vies régulièrement. C'est leur métier. Chaque jour, ils interviennent pour lutter contre l'incendie, le feu, ou pour sur un accident de circulation ou sur un accident domestique, sauver et en tout cas protéger des personnes. Il a fallu, en plus de ça, l'an dernier, qu'ils interviennent dans un contexte Covid, comme on dit, où pour eux-mêmes il pouvait y avoir un risque et où en plus ils prenaient en charge des personnes qui étaient malades. Donc voilà, ce qui est vrai pour les pompiers a été vrai pour tous les gens du service public depuis l'année dernière, et donc c'est une forte charge. Puis en même temps, c'est une fierté. Voilà, parce que si on s'interrogeait sur le sens de notre métier, ben on ne s'interroge pas du tout. Parce qu'on est là pour aider, et dans cette période Covid, ben on aide encore plus.
Merci pour vos réponses. Donc, on va rester dans la continuité de cette réponse. Comment qualifiez-vous cette année et comment vous avez réussi à tout gérer de votre côté, parce que vous avez dû gérer tout le département ?
Oh, alors non, j'ai jamais eu une vocation de super-héros. Je me regarde dans la glace et je me dis que c'est pas moi, Superman. Hein ? Donc non, c'est un travail collectif. Le préfet, comme toute personne en situation professionnelle, hein, sauf quand on est artisan et seul, mais sinon, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a autour de lui des gens pour l'aider à réussir et qui travaille avec beaucoup de monde. Donc le préfet, il travaille évidemment avec des équipes, les équipes de la préfecture, et puis de toutes les directions, tous les services de l'État dans le département. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai été nommé il y a un peu plus d'un an, d'arriver dans un département où il y a des gens de très très grande qualité. Voilà, donc à la préfecture, je m'appuie sur des équipes et dans les services, par exemple, de l'emploi, de la cohésion sociale ou des finances. Il y a des gens formidables aussi qui se sont mobilisés à fond. Et puis, on ne travaille pas seul, nous, l'État. On travaille évidemment avec un réseau de partenaires. On a passé l'année dernière en permanence avec les élus, avec les maires en particulier, dans toutes les communes de l'Eure, à gérer cette crise, parce que tout ne relève pas de l'État. Hein. Il y a beaucoup de compétences qui sont des compétences des communes. Et pour bien y arriver, bah, c'est une affaire de collectif. Il a fallu qu'on travaille vraiment tous ensemble, avec aussi le réseau associatif, puisque dans cette période de crise sanitaire, c'est les plus vulnérables, les plus fragiles, qui sont plus touchés que les autres. Et donc, il a fallu faire extrêmement attention à ça. On a eu, avec notamment les associations qui portent l'aide alimentaire, un travail d'accompagnement pour leur donner plus de moyens. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, les crédits de l'État aux associations pour l'aide alimentaire ont été multipliés par 4. Voilà, pour permettre à ces associations de ne pas être en rupture face à une demande qui était plus forte. Mais tout ça, donc, c'est un travail en réseau et c'est un travail collectif. C'est vraiment le message que je veux vous passer.
Donc on peut dire que c'est un travail d'équipe.
Oui, exactement. C'est un travail d'équipe. Il n'y a que ça de vrai. Hein.
Moi, je me permettais de revenir un petit instant, notamment sur la question du sens du métier. C'est vrai que vous l'évoquiez à l'instant, monsieur le préfet, mais c'est hyper classe, forcément, quand on est pompier, son métier, c'est de sauver des vies, c'est quand même un peu classe, quand même. je me permets. Hein. Non, mais ça fait partie des métiers pour lesquels il y a une image, enfin, une excellente image, quand même, qu'on a, nous tous, j'imagine. Enfin, en tout cas, nous, quand on en a discuté, c'était une image très positive, bien entendu, de ce métier. Il y a aussi cette notion, et j'y ai pensé quand on parlait de l'année un peu difficile, et notamment socialement par rapport à l'aide alimentaire. Le pompier, c'est aussi, j'imagine, le volet social. On parle toujours du secours apporté, mais il y a forcément un angle social, j'imagine, dans vos métiers de pompier. Intervenir sur des situations, des fois, qui sont d'urgence ou vitales. hôpital, mais pas seulement. Parfois, j'imagine qu'il y a aussi d'autres situations. J'arrive pas à trouver le point d'interrogation à la fin de cette idée-là, mais en tout cas, c'était vous solliciter, vous questionner un petit peu sur ce volet social qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins évident peut-être, mais qui, à notre sens, nous paraît quand même tout aussi important que le volet secours vital à proprement parler. Est-ce que ça fait partie aussi de ce que les pompiers travaillent, véhiculent comme valeur, comme formation, comme idée, dans le sens du métier, quoi?
Oui, la question, elle n'est pas facile, parce que on peut avoir deux angles à cette réponse. La première, c'est de dire, à la base, on est un service d'urgence, et on devrait se dire, on doit rester mobilisé pour les urgences. Mais la réalité du quotidien, c'est qu'on est aussi un service de secours, d'assistance, et on le fait, parce que on doit le faire. Et que la question, on se la pose toujours après, de se dire, est-ce qu'on devait ou devait pas, est-ce que c'était notre boulot ou pas notre boulot, c'est pas grave. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'interventions qui ne sont pas des interventions d'urgence, mais à partir du moment où on y va, on y va, et on fait. On fait parce que c'est le sens de notre métier. Et après, comme l'a dit monsieur le préfet tout à l'heure, c'est du travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a le retour d'expérience qui permet de se dire, mais pourquoi à un moment on fait ce type d'intervention et on doit échanger avec nos services partenaires pour trouver des axes d'amélioration ou des fois, avant de parler d'axes d'amélioration, ne serait-ce que de partager les informations avec les services adaptés pour prendre en compte une situation qui peut paraître un petit peu particulière.
Sur l'année qui vient de s'écouler, monsieur le préfet évoquait la difficulté alimentaire notamment, qui est la toute première nécessité. Est-ce qu'il y a eu des constats au niveau des pompiers sur les interventions sur cette année particulière également?
Concernant le service incendie, on n'a pas, nous, on n'est pas rentré dans un système de constat, par exemple, de difficultés alimentaires. Ça, on ne peut pas forcément regarder ça. Par contre, à la demande de l'autorité préfectorale, depuis un an, on nous a demandé d'avoir une attention particulière sur les interventions à domicile, sur les personnes isolées, sur les différents familiaux, etc. Parce qu'on fait partie des acteurs de terrain qui peuvent remonter ces informations-là, au même titre que nos collègues policiers, gendarmes, les services sociaux du département, des mairies, etc. Donc on fait partie, on est une pierre à l'édifice pour remonter l'information à monsieur le préfet en disant, bah voilà, nous on fait tel type d'intervention et puis on s'aperçoit que ça augmente ou pas. Et comme ça, monsieur le préfet, il compile l'ensemble des éléments et puis après, il joue son rôle avec les différents services.
Nous évoquions il y a un instant cette démarche de présenter les métiers du secteur public et justement on a les pompiers avec nous en particulier. Est-ce qu'il y a des prérequis pour être pompier? Est-ce qu'évidemment faut être, je sais pas moi, fort en mathématiques, fort en sport, fort en quelque chose? Faut-il avoir des compétences particulières, des diplômes d'exception ou au contraire un niveau officiel pour pouvoir prétendre être pompier professionnel? Comment ça se passe pour devenir pompier professionnel? Wilfried, peut-être?
Tout dépend si vous ciblez la catégorie sapeur-pompier professionnel, mais vous avez évoqué les jeunes sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers volontaires. À chaque strate, un recrutement est fait et il est
alors,
différent.
Redéfinissons justement alors ces trois strates dont vous venez de parler, peut-être pour les gens qui ne savent pas trop bien de quoi on parle. Vous parliez de jeunes sapeurs-pompiers.
Quand vous avez un début de vocation, que vous voyez les pompiers de loin, que ça vous intéresse, vous pouvez être jeune sapeur-pompier. Donc c'est quand vous êtes de 12 à 13 ans jusqu'à votre majorité. Donc là, suivant les centres de secours, vous intégrez une formation qui aura lieu le mercredi ou le samedi. Chacun s'adapte en fonction de ses ressources. Là, libre à chaque école de créer un recrutement qui reste simple et qui évalue surtout de l'ambition et de la motivation.
Et donc après, vous parliez des volontaires.
Donc après, on peut devenir sapeur-pompier volontaire. Donc là, on passe à l'échelle départementale. Maintenant, le recrutement est organisé par le SDIS pour qu'il soit homogène. Mon commandant, je pense que vous êtes d'accord, le recrutement reste un niveau normal et qui, enfin normal, il n'y a pas de normalité, mais un niveau abordable quand vous êtes motivé et ambitieux.
Donc, c'est la motivation qui est le moteur premier pour accéder.
Il faut être honnête, il y a quelques critères où on se doit de s'assurer que les gens savent lire, écrire pour le besoin des interventions, un minimum de conditions physiques, mais pas besoin d'être un sportif de haut niveau. Il suffit d'avoir un niveau général. Et après, l'équipe tirera vers le haut s'il y a des défaillances ou vous apporterez votre plus-value à l'équipe.
J'aime bien cette fin de réponse avec l'équipe vous poussera vers le haut et de toute façon vous apporterez une plus-value à l'équipe. C'est vraiment qu'on parlait tout à l'heure de valeur et là on sent dans votre façon de l'exposer qu'il y a quelque chose autour de cette notion d'équipe. Et puis après il y a le pompier professionnel. Est-ce que c'est accessible à tous ou faut-il être passé par ce qu'on pourrait appeler un cursus jeune sapeur-pompier puis volontaire pour accéder à être professionnel ou c'est quelque chose d'à part? Et puis, y a-t-il des prérequis aussi pour devenir pompier professionnel ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est pour rentrer dans la fonction publique territoriale. Donc, y a l'accès se fait par concours, mais on est en évolution. Déjà, il y a deux accès. Soit vous rentrez par ce qu'on appelle le concours de caporal. Donc, vous rentrez bien souvent. Alors, c'est une caricature, mais c'est pour être dans les engins. Et ensuite, vous pouvez rentrer lieutenant ou capitaine. C'est pour faire partie de l'encadrement. En fonction des concours que vous souhaitez passer, votre niveau scolaire devra être plus important. On est en pleine. Alors, pour faire simple, il y a deux modes de recrutement, en externe avec un bagage scolaire adapté ou en interne après quelques années de sapeur-pompier volontaire ou de jeune sapeur-pompier. Cette année est spécifique parce que le concours est modifié sur les épreuves sportives. Elles ont été modifiées dans le sens qu'elles se rapprochent le plus possible de ce qu'on nous demandera en intervention. Donc, au niveau national et zonal, cette fois, le concours est organisé. Le nombre de recrutements est fait en fonction du besoin, défini par chaque département. Donc, suivant les années, vous avez plus ou moins de possibilités de vous faire recruter. Vous passez le concours et, comme son nom l'indique, c'est les meilleurs en fonction du nombre de places qui seront recrutées. Voilà.
Je me permets juste, parce que je suis très curieux, hein. Vous étiez en train de dire que sur la partie sportive, là, le concours, c'était de plus en plus similaire à ce que vous pouvez rencontrer en intervention. Globalement, physiquement, en termes de sport, qu'est-ce qu'on rencontre en intervention ? On n'a pas forcément l'idée, le grand public, de la variété des interventions. On voit régulièrement les camions passer. Il y a l'image du pompier qui éteint l'incendie, mais ce n'est pas que le pompier qui éteint l'incendie. J'imagine vos interventions. Sur quel type de physique, sur quel type d'intervention, quel est le lien entre l'intervention et le sport, quoi ?
La mission des sapeurs-pompiers la plus régalienne, mais la plus à l'image de tout le monde, c'est reste l'incendie. Donc dans ces conditions-là, vous devez être explosif au début et résistant le temps de l'intervention. Parce que dès que vous allez arriver, il va y avoir des notions d'urgence. Donc il va falloir être efficace et rapide. Et ensuite, l'intervention dure pour la sécuriser. Donc là, il faudra être résistant. Maintenant, la majorité de nos interventions reste du secours à personne. Où là, pareil, il faudra un peu de travail de force pour le portage des victimes aux besoins. Et aussi, une des valeurs du sport, c'est aussi la maîtrise de soi et de son stress, et qui fait qu'en intervention, rester toujours concentré.
Très bien. Johan, je crois que tu avais une question.
Alors moi, je voudrais savoir, donc, soit Monsieur Le Goupil, soit Bininger, avec quel secteur avez-vous le plus de contact durant vos interventions ou tout autre
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, une intervention de secours, elle est toujours avec plusieurs partenaires. Donc, le service incendie travaille au quotidien avec les forces de l'ordre, police, gendarmerie, et les polices municipales aussi, dans les villes qui en sont dotées. Et puis, si pour toute intervention de secours à personne, on travaille avec le SAMU. Alors le SAMU soit par téléphone pour orienter le bilan de notre victime et l'orientation vers un centre hospitalier, soit pour décider de l'engagement d'une équipe médicale sur place avec nous qui vient en complément de notre intervention avec un médecin et un infirmier pour des interventions un peu plus graves. Puis après on va travailler avec les services de la voirie, quand il y aura eu un accident de circulation et qu'il faudra mettre en place des déviations, les services autoroutiers quand on travaillera sur l'autoroute. Et puis, si je vais à l'extrême avec ce qui s'est passé le week-end dernier, avec l'incendie d'une église dans le département de l'Eure, eh ben, les sapeurs-pompiers ont travaillé avec l'architecte des bâtiments de France qui s'est déplacé sur place et qui est venu avec nous dans un engin de secours dans ce fameux bras élévateur pour venir voir l'église de plus près, sa stabilité. Donc, vous voyez, ça arrive pas tous les jours. Mais c'est aussi cette complémentarité inter-service qui marche au quotidien.
Je vais vous proposer une courte pause musicale et puis nous resterons avec nos invités pour la deuxième partie de l'émission. Je rappelle, avec Jérôme Filippini, préfet de l'Eure, avec le commandant Bininger, du S10 de l'Eure, avec Wilfried Legoupil, sapeur-pompier professionnel. On se retrouve juste après cette pause musicale.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami.
D'écouter Jérusalema, Master KG, featuring Nonsebo Zikodé.
Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé et dans la vraie vie approuvé par tous, l'effet papillon ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Principe actif.
Donc, on va reprendre les questions. Donc, monsieur le préfet, j'ai une question bien spécifique. C'est quoi le ministère de l'Intérieur et les différents métiers à propos de ce ministère?
Le ministère de l'Intérieur, C'est donc un des ministères du gouvernement qui est en charge de la sécurité et de la protection. Et puis de ce qu'on appelle l'administration territoriale. Donc la sécurité et la protection, c'est la police, la gendarmerie, la sécurité civile, comme on dit, donc les sapeurs-pompiers. Et puis des métiers un peu spéciaux de police et de gendarmerie, qui sont les métiers du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Voilà, ça c'est pour la partie sécurité et protection. Et puis le ministre de l'Intérieur, il est aussi le ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire que c'est le grand chef des services de l'État de proximité. C'est lui qui est la tête de réseau, si je puis dire, des préfets. Et les préfets, il y en a un dans chaque département, donc vous avez 101 départements... et puis un certain nombre de régions. Donc à chaque fois, vous avez un préfet qui est l'interlocuteur direct du ministre et de son cabinet. Voilà, le ministre de l'Intérieur, il est là pour assurer un État qui protège, qui garantit, qui secourt, qui vient au secours de nos concitoyens lorsqu'ils sont menacés par des risques, par des crises. Ça, c'est en particulier le métier de la sécurité civile, c'est-à-dire que quand vous avez une catastrophe naturelle importante, comme ça a pu se produire avec les inondations dans l'Aude, par exemple, eh bien, vous avez tout l'État qui se mobilise pour aller secourir les personnes, pour les mettre à l'abri. C'est arrivé dans les Alpes-Maritimes, hein, encore il y a quelques mois. Et puis protéger aussi nos concitoyens contre la criminalité et la délinquance, bien sûr, parce que c'est un risque auquel on est tous exposés, et c'est pour ça que les policiers et les gendarmes sont là. Voilà. Et donc, encore une fois, dans chaque département, un préfet qui est le patron de ces personnes-là et qui est l'interlocuteur direct du ministre et de son cabinet.
Alors, je vais prendre la relève. Est-ce que j'ai deux petites questions que je pense tout le monde se pose. Si on ne se l'est pas posé une seule fois dans sa vie, c'est que quand même, je ne sais pas. Y a-t-il des personnes chargées d'opérations secrètes au sein du ministère ? Non, parce que franchement... C'est une question qui a le mérite d'être posée. Hein.
Et alors, vous regardez... quelle série télévisée vous regardez? Vous pensez... Si c'est le bureau des légendes, c'est pas au ministère de l'Intérieur. Voilà, non, alors plus sérieusement. Des opérations secrètes, c'est pas l'essentiel de l'activité des services. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on veut protéger nos concitoyens contre la criminalité, je prends l'exemple du trafic de drogue, par exemple, bah oui, à certains moments, il faut évidemment faire les choses discrètement. Et donc, c'est un ministère... pas forcément du secret, mais de la discrétion. Quand il faut planquer pendant un moment, les policiers le font pour aller faire tomber un point de deal à un moment ou un autre. Et ben ça, c'est une forme de discrétion, bien sûr. Et puis, quand on arrive à des choses encore plus graves que ça, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, oui, bien sûr, il faut faire des enquêtes extrêmement discrètes et qui peuvent passer par le secret, parce que quand on déjoue, ça a été le cas l'année dernière, 35 attentats, il a fallu à un moment ou un autre que certaines personnes aillent sur les réseaux sociaux, le cas échéant, prennent des identités différentes et arrive à entrer dans le système et dans le cerveau de ces fous qui veulent créer des attentats. Voilà. Donc oui, il y a des gens qui travaillent dans le secret et pour le bien des concitoyens.
D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on peut devenir agent secret ? Est-ce qu'on peut devenir agent secret en France ?
Je vous sens motivé.
Ah ben moi toujours, hein ? Bon.
Alors, oui, bien sûr, il y a deux services qui sont officiels, hein, dont vous trouvez les sites internet et qui recrutent. Il y en a un qui s'appelle la Direction Générale de la Sûreté Extérieure, la DGSE, qui est rattachée au ministère des Armées et qui, en gros, assure, c'est les services spéciaux, les services secrets, comme on dit parfois, à l'extérieur du territoire. Voilà. Ils recrutent. Envoyez votre CV. Ah,
mais c'est bon à savoir, ça, du
mais
coup.
Oui,
hein.
Oui, oui. Et puis, alors, ils recrutent des profils très différents parce que, pour vous dire, aujourd'hui, la veille contre le monde criminel, c'est d'abord une veille dans le monde cyber. Il faut aller dans le cyber-espace pour aller attraquer. Donc, on a besoin d'avoir en particulier des gens qui sachent coder, qui sachent aller dans les systèmes d'information, qui sachent aller dans le dark web, là où la criminalité se réfugie. Donc, voilà. Et puis, il y a au ministère de l'Intérieur une direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, qui, elle, assure la lutte contre le terrorisme sur notre territoire et aussi recrute, hein, bien sûr. Donc, ces gens-là sont des fonctionnaires. On parle de services publics. Hein, là, je viens vous parler d'autres métiers que cela aujourd'hui, bien sûr. Mais ce sont aussi des agents publics qui sont payés par le contribuable pour assurer une mission d'intérêt général. Voilà. Donc, ce ne sont pas des gens cachés ou bizarres ou mystérieux. Si vous regardez le Bureau des légendes, d'ailleurs, si vous avez aimé cette série, moi, ça a été mon cas, vous voyez très, très clairement que ce sont des gens comme vous et moi qui ont choisi de faire ce métier d'engagement très risqué, très dévoué. Et c'est une façon de faire du service public. Alors, il y a des façons plus banales de le faire, hein, et moins dangereuses aussi.
D'accord, donc j'espère que tout le monde a bien entendu qu'il y a des recrutements pour agents secrets en ce moment.
Bon, bah, on va y aller, hein, tout simplement.
Effectivement, c'est des choses qui font partie du rêve quand on parle ministère, quand on parle métier. Mais justement, vous évoquiez à l'instant qu'il y a d'autres métiers. On parlait là du dispositif 10 000 jeunes pour découvrir les métiers de services publics. Globalement, est-ce qu'il y a des zones ou des secteurs à forte demande, à forte potentiel de débouchés ou que sais-je, ou sur lesquels il manquerait du monde? Est-ce qu'il y a des métiers d'avenir dans les cartons?
Alors, tous les métiers de service public sont des métiers d'avenir, parce que je suis prêt à parier que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura toujours autant besoin de services publics. Donc, si vous avez cette envie-là, allez-y, vous êtes sûr que ce ne sont pas des métiers en disparition. On aura toujours besoin de pompiers, de policiers, de gendarmes. On aura besoin dans les préfectures de gens qui gèrent les crises. On aura aussi besoin dans d'autres services de l'État, hein, bien sûr, de gens qui, par exemple, assurent la protection sanitaire ou qui gèrent les finances publiques, etc. Donc, c'est cette diversité d'opportunités qu'on a voulu présenter avec le plan 10 000 jeunes. Et donc, pour être concret, un jeune qui veut tester ce plan et qui voudrait pouvoir proposer sa candidature, il peut aller sur le site internet de la préfecture, heure.gouv.fr, commencer à se renseigner. On commence à mettre, c'est pas encore complet, hein, mais on commence à mettre des offres de stages en ligne. La gendarmerie propose de venir faire des stages dans certaines brigades, dans les services administratifs. La police nationale aussi le propose. La préfecture offre aussi des occasions de venir travailler chez nous. La délégation aux droits des femmes est prête à accueillir aussi quelqu'un qui viendrait travailler sur cette problématique tellement importante de la protection des droits des femmes dans notre département. Et donc voilà, vous pouvez aller regarder sur le site internet si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi contacter à peu près n'importe qui dans mes services, mais j'espère qu'on a mis une adresse sinon qui permet de contacter pour que vous soyez guidé. Et je dirais sans aucune inhibition, sans censure, parce que ce qu'on aimerait avec ce plan-là, c'est que ce soit pas... je vais dire les choses, ce ne soit pas des enfants d'agents publics, ce ne soit pas des enfants de gens qui sont déjà fonctionnaires qui viennent, mais ce sont des gens qui s'en sentent très éloignés, qui n'ont jamais eu un fonctionnaire dans leur famille, qui n'ont pas de policiers, de gendarmes ou de préfets à appeler pour savoir comment faire. Vous nous contactez et on vous proposera un stage. Alors, ça peut se faire à différents âges. Il y a des formules qui existent depuis des années, vous les avez faites sans doute, c'est les stages de troisième, hein, les stages de troisième qui se font plutôt à la fin de l'année, ils permettent d'aller dans une entreprise ou chez un artisan, découvrir un métier, c'est passionnant. Ils vous permettent aussi de venir dans les services publics, et donc vous pouvez venir en préfecture, vous pouvez venir à différents endroits. Et puis après, lorsque vous êtes en bac professionnel, vous pouvez venir. Lorsque vous êtes un jeune étudiant, vous pouvez venir faire un stage de moins de 2 mois, un stage de plus de 2 mois. Et on prend aussi en apprentissage. Voilà, on prend en apprentissage. Et puis, comme j'ai dit qu'il y avait une adresse sur le site internet, ça va, je suis rassuré. Vous écrivez à plan10000@heure.gouv.fr, plan10000 tout attaché, hein, 10 000 en chiffres, @heure.gouv.fr, voilà, et on vous répondra si vous êtes intéressé.
Sur les métiers, en fait, j'entends deux choses. Le premier, c'est j'ai envie spécifiquement d'être gendarme ou pompier et je viens postuler un stage très ciblé. Mais je peux aussi avoir cette notion de service public, de travail dirigé vers les autres, sans avoir forcément d'idée très spécifique de ce que je veux faire, et je peux postuler tout de même. C'est ça, il y a ces deux portes d'entrée.
Oui, les deux. Alors, il peut arriver qu'on ait la vocation, et vous l'avez dit tout à l'heure, Wilfried, c'est-à-dire à 13 ans, j'ai vu les pompiers, j'ai eu envie de moi-même d'aller être jeune sapeur-pompier, et c'est une espèce de vocation précoce. Mais pour la plupart d'entre nous, à 13 ans, on ne sait pas du tout ce qu'on a envie de faire, et parfois à 15 ans, et parfois à 17 ans, etc. Et moi, c'était mon cas. Et donc, la meilleure façon de se découvrir, c'est d'aller au contact des autres. Et c'est souvent par le hasard d'un stage... d'une personne qui vous encadre et qui vous montre dans le stage des choses que vous ne connaissiez pas du tout, que vous allez cheminer et que vous allez pouvoir trouver votre vocation. Il n'y a aucun drame, aucune fatalité à ne pas savoir ce qu'on veut faire à 15 ans ou à 17 ans. Surtout pas. Et on pourrait vous raconter les uns les autres nos parcours de vie, mais d'autres, à quel point le hasard est venu se greffer là. Et puis... un mélange de belles opportunités de rencontres, puis de prise de risque aussi, parce qu'à un moment, on se dit, bah, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, etc. Voilà. Mais il ne faut pas se censurer a priori en se disant, ces métiers-là, ce n'est pas pour moi. Il y a aujourd'hui, parmi les préfets, maintenant, une moitié de femmes, donc que les femmes se disent que le métier préfectoral est fait pour elles, parce que ce n'est pas vrai que, comme c'était autrefois, c'était un métier d'homme. Il y a aussi, et aujourd'hui, de plus en plus, dans ces responsabilités de haut niveau, de gens qui représentent la diversité de la France. Donc il ne faut pas se dire que parce que je suis né dans un quartier ou parce que je n'ai pas de parents ou fonctionnaires, etc., ça ne sera pas pour moi. Ça, c'est la vision du passé, la vision d'avenir, c'est que tout ça, ça doit changer et que c'est vous qui allez ouvrir les portes.
Je me permets, je rebondis, vous dites la moitié des préfets sont des femmes, des préfètes. Chez les pompiers, ça se passe comment ? Est-ce que c'est aussi ouvert alors, on ne va pas chercher une parité ou autre, c'est pas le sens de la question, mais est-ce qu'une jeune femme qui se dit bah moi, les métiers du secours m'intéressent, est-ce que c'est ouvert aussi aux femmes aussi simplement ?
Alors, vous doutez bien que je vais vous répondre oui.
Oui, alors, il y a une réponse officielle, mais il y a une réponse d'accès réel.
Mais il y a la réalité. La réalité, c'est que dans l'heure, un sapeur-pompier sur cinq est une femme. Et c'est pas une fierté du 10 de l'heure. C'est juste qu'aujourd'hui, notre politique, elle est ouverte. Et c'est pas une politique fermée. Toute personne qui postule pour devenir jeune sapeur-pompier volontaire, pompier professionnel après avoir réussi le concours, part sur le même pied d'égalité. On est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale sur la féminisation de notre environnement. Donc voilà, et on continue. Après, on parle de féminisation et chez les sapeurs-pompiers, il ne faut pas oublier que plus de 80% des sapeurs-pompiers en France, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Et notre modèle de sécurité civile est basé aussi une grande partie sur le volontariat. Hein. Il y a des pompiers professionnels plutôt dans les milieux urbains et tout le reste est globalement géré par des sapeurs-pompiers volontaires. Et on parle aussi aujourd'hui d'engagement différencié. L'engagement différencié, c'est quelqu'un qui se dit bah moi j'aimerais bien être sapeur-pompier mais je me sens pas forcément très à l'aise pour partir sur un incendie, par contre monter dans une ambulance, aller faire du secours à personne, ça m'intéresse peut-être un peu plus, ou j'ai pas beaucoup, un peu moins de temps à donner. Et ben on est aussi capable d'orienter des gens avec des profils différents pour pas dire vous venez et vous devez tout faire forcément tout de suite. Donc on a aussi cette possibilité-là et qui peut attirer certains profils et certains parcours.
Les joies et les difficultés de ces métiers, j'imagine. Et là, j'aurais presque envie de commencer par Wilfried Le Goupil en tant que sapeur-pompier professionnel. Quelles sont les joies ? Parce que j'imagine que quand on fait ce type de métier, on l'a abordé en début d'émission, il y a un côté vocation à ces métiers. Quelles sont les joies et les difficultés du sapeur-pompier professionnel ? Selon votre regard à vous, bien entendu.
Oui, bien sûr, c'est un regard personnel. Mais les joies, c'est déjà la joie de faire le travail qu'on a choisi, qui est aujourd'hui pas ouvert à tout le monde, qui n'est pas offert à tout le monde. Moi, pas une fois, j'ai eu l'impression d'aller au travail depuis que je suis sapeur-pompier. Après, les joies de pouvoir aider les autres, les personnes qui nous sollicitent, le regard de la satisfaction apportée aux gens une fois qu'on a réussi nos missions, reste quand même la plus belle des joies. Les tristesses, on les connaît, hein, quand on n'arrive pas à faire ce pour lequel on est venu aider, porter secours, des situations dramatiques, sans rentrer dans le détail, mais ça reste des situations difficiles, mais enfin, oui, voilà, difficile, mais parler en centre de secours et elles font partie du métier, quoi.
Sur les joies et les métiers, les joies et les difficultés d'un préfet. Bah oui, vous pensez bien, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas vous la poser, cette question.
Non, mais je veux bien ne pas y échapper. Je réfléchissais, les joies, c'est un peu comme ce que vient de dire Wilfried avant. Moi, je vais chaque matin au travail avec bonheur, voilà. Et je suis préfet depuis 4 ans, j'ai fait plein d'autres choses avant, hein. C'est pas propre au métier de préfet, mais je pense que le vrai bonheur dans la vie, compte tenu de l'espace qu'occupe le travail, c'est d'y aller avec fierté, avec bonheur, sans y aller à reculons, etc. Et puis dans le métier de préfet qui est très exposé, à beaucoup de critiques, à beaucoup de contrariétés, parce qu'on prend évidemment des décisions qui peuvent contrarier les gens. La grande joie, c'est quand on a le sentiment d'avoir été utile, quand on constate après coup que même après avoir pris des mesures difficiles et sévères, ça va mieux. Je vais prendre l'exemple de la crise Covid. Mon rôle est régulièrement de prendre des décisions qui empêchent, qui contraignent, qui disent non. Et c'est vraiment pas un plaisir pour moi. Mais quand je constate, comme c'est le cas en ce moment, après 3 semaines de mesures renforcées, que le taux de contamination baisse dans le département, que la saturation hospitalière reste haute, mais que les infirmiers et les médecins peuvent gérer la crise dans les unités de réanimation, ben voilà, j'ai l'impression d'avoir été utile. Donc c'est une joie un peu mêlée de tristesse ou de responsabilité en l'espèce, mais c'est vraiment une très grande... un très grand bonheur d'une certaine façon, et je souhaite à tout le monde, dans la vie professionnelle quelle qu'elle soit, de pouvoir constater l'effet positif de ce qu'on fait. Parce qu'il peut y avoir des métiers dans lesquels on est plus éloigné de ça, et les métiers de l'artisan qui touchent l'objet et qui le produisent, comme un certain nombre de métiers de service public, comme les nôtres là, qui sont très engagés dans le réel, c'est des métiers satisfaisants et gratifiants, parce qu'on peut constater concrètement le résultat de ce qu'on a fait. Voilà. Mais c'est le cas aussi d'un enseignant, je pense, qui est confronté parfois à beaucoup de difficultés, mais qui voit grandir à la fin de l'année, qui retrouve quelques années après parfois des jeunes gens qui viennent dire bah, « Merci, grâce à vous, j'ai trouvé mon chemin. Vous m'avez peut-être engueulé de temps en temps quand j'étais en cours. Vous avez été très exigeant avec moi, mais en fait, vous m'avez fait progresser. » Voilà. Donc, vous voyez, c'est un mélange de bonheur, et de beaucoup d'engagement et de beaucoup de responsabilité, mais je ne sais pas vous répondre autrement et il faut que j'arrête de vous répondre parce que c'est un peu trop long.
Non, mais on sent la passion derrière cette réponse. Commandant Béninger, en tant que commandant du S10 de l'heure, quelles sont les joies et les difficultés de la fonction ?
Ça va être compliqué de dire d'autres choses que mes deux prédécesseurs, mais voilà, quand on est sapeur-pompier, les joies, c'est de réussir à mettre en œuvre ce pourquoi on est ici tous les jours. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Mon collègue tout à l'heure, Wilfried, parlait du côté très opérationnel, et c'est normal, puisqu'il est plus confronté que moi à la réalité de tous les jours dans les engins de secours. Moi, j'ai une autre mission aussi, d'organisation, et de faire en sorte d'arriver à mettre le plus possible de l'huile dans les rouages de notre fonctionnement au quotidien, sans oublier que la finalité, c'est l'intervention. C'est la finalité, tout le jour, pour les services support du S10 de l'heure, c'est l'intervention. C'est quelqu'un qui va appeler le secours. Et l'engin de secours, il doit être en capacité de rouler. Les sapeurs-pompiers dedans, ils doivent être habillés, ils doivent être bien formés, etc. Donc, on met tous notre pierre à l'édifice. Et puis, les peines sont les mêmes que mes collègues, puisque en dehors de cette organisation, on a aussi une activité opérationnelle, de commandement, sur des interventions un peu plus importantes. Et on est confronté aux mêmes joies, aux mêmes peines à tous les niveaux.
Très bien, je me retourne vers Johan, Aurélia, Rémi, Alexandre. Restait-il quelques questions dans votre besace ?
Moi, je vais avouer que monsieur le préfet a répondu à toutes mes questions, donc j'ai plus grand chose en stock.
Non, mais c'est pour savoir si on
moi,
passe.
Je peux vous en poser maintenant si vous voulez.
Ah bah... Si vous voulez, allez-y.
Allez, on fait le rôle inverse, pourquoi pas.
Si vous avez envie, allons-y.
Qu'est-ce qu'il faut faire demain pour que les métiers des services publics soient plus connus ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner envie à des jeunes qui aujourd'hui se disent « c'est pas pour moi » de venir ? Alors, on a notre plan 10 000 jeunes, on est fiers, on vient vous en parler, on essaie de vous inciter à vous en saisir, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ?
Peut-être essayer la démarche des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui nous touche vraiment. Les 18-25 ans, on est très actifs sur certains réseaux tels qu'Instagram, Twitter aussi. Si vous avez un compte Twitter, ça peut vraiment aider. Faire des mises en action, et utiliser des cas concrets. Des personnes qui travaillent, qui donnent leur avis et qui en parlent de leur parcours, de pourquoi, du comment. Et je pense que ça peut vraiment motiver les jeunes de nos âges pour se lancer dans ce secteur-là.
Bon, alors il y a deux comptes Twitter à Enfin, il y a surtout un compte Twitter à suivre, hein, c'est le compte Préfet27, sur lequel vous pouvez trouver effectivement relayer de façon systématique les informations qu'on donne. On les donne aux médias, à la presse quotidienne régionale, à la radio classique ou à vous, mais on les donne aussi sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, on est sur Facebook, oui. Insta aussi, mais bon, moi, j'y vais pas beaucoup, alors c'est pour ça. Moi, je suis plutôt fanat de Twitter et j'y passe beaucoup de temps.
Je vous follow alors.
Et on est sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel hein, que vous connaissez, voilà. Mais j'avais demandé à Nicolas, qui est mon chargé de com, qu'on aille sur TikTok, sur Fortnite.
Ça, c'est une bonne idée, TikTok. TikTok, moi, je vous vois bien faire des TikTok. Hein.
Je suis pas sûr.
Ah non, mais
je
si.
Je suis
hein.
pas sûr.
Il y a moyen. Hein.
Et il m'a dit que c'était une mauvaise idée.
Il
n'y
a jamais de mauvaise idée. Hein.
Alors, je me permets, pour les sapeurs-pompiers, on est très très actifs sur les réseaux sociaux parce qu'on a intégré ça dans notre communication en essayant de l'adapter un petit peu à tous les profils. Donc c'est vrai que les comptes institutionnels du 10 de l'heure sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram aussi, et puis une petite chaîne YouTube aussi sur laquelle on l'utilise un petit peu à deux niveaux, un niveau grand public de temps en temps pour montrer ce que c'est la réalité des métiers du 10 de l'heure, et puis aussi à vocation interne pour nous, pour la formation, parce qu'aujourd'hui on apprend beaucoup aussi en revoyant les images, donc ça c'est important. Mais voilà, on sait aussi qu'il faut qu'on soit toujours en pleine adaptation face au public et à notre cible.
Très bien, eh bien, j'ai envie de vous proposer une très courte pause musicale avant d'arriver aux news de la mission locale qui sera notre dernière partie d'émission.
She cries on every tune.
vient d'écouter Walkman and One Mac, Dreer Tops.
Principe actif. L'équipe, des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Tous ont en commun de faire une radio libre. Principe actif.
Actif par principe.
Donc nous allons reprendre avec les actualités de la mission locale. La mission locale Pays d'Eure, Eure Sud, avec les missions locales et associations régionales des missions locales de Normandie, vous propose du 25 mai au 18 juin 2021 le printemps des solutions. À cette occasion, la mission locale ira à la rencontre du public 18-25 ans pour parler des solutions offertes par le plan Un jeune, une solution et leur accompagnement. De nombreuses actions seront proposées sur le territoire autour de l'emploi, la formation, l'alternance, la garantie jeune, la mobilité, le service civique ou encore les aides aux départements en vacances. C'était départ en vacances. Avec la participation des partenaires de la mission locale, parmi lesquels le centre social MJC de Verneuil ou encore les centres sociaux de la Madeleine d'Évreux, le programme avec les dates, lieux et aussi partenaires, participant à cet événement seront bientôt disponibles sur le site internet de la mission locale. Je laisse la parole à Rémi.
Et merci beaucoup. Donc, les autres actualités, le 17 mai, l'application smartphone La Réponse, conçue par les jeunes de la mission locale grâce au soutien financier de la Fondation Orange, sera disponible en téléchargement. Donc, le 17 mai, retenez-le. La Réponse, qui est une application où les jeunes de 16 à 25 ans trouveront toutes les questions qui se posent sur l'emploi, la formation, le logement, la mobilité et sur bien d'autres thématiques.
Eh bien, ça nous amène à la conclusion de cette émission. Je rappelle que nous avions comme invité Jérôme Filippini, préfet de l'Eure. Nous avions également le commandant Bininger du S10 de l'Eure et également Wilfried Legoupil, sapeur-pompier professionnel. Merci à vous trois d'avoir passé cette heure avec nous à répondre à nos questions et plus précisément aux questions de Johan, d'Aurélia, de Rémi et d'Alexandre. Merci à vous les jeunes d'avoir proposé cette belle émission. Nous, on se donne rendez-vous en direct de la mission locale le mois prochain. La date est à venir. Hein. On ne travaille pas à 3 mois d'avance. Hein. Et puis, en espérant retrouver notre équipe de journalistes au micro. Restez à l'écoute de nos programmes. Une belle rediffusion est programmée dans quelques minutes.